Voici les titres du journal.
À un mois des votations du 28 novembre, le comité roman en faveur du non à la loi Covid a lancé sa campagne hier. Les militants ont en ligne de mire le certificat sanitaire qu'ils jugent discriminatoire et anticonstitutionnel. Une unité de vaccination mobile était installée à Aigle cette semaine. Plus de 230 personnes ont reçu une seconde dose de vaccin. Par cette démarche, le canton de Vaud espère toucher les zones périphériques où le taux de couverture de la vaccination est moindre. Un hélicoptère biturbine vient compléter la flotte de la base Colombey-Roude d'Air Glacier. Présenté hier à la presse, il assurera une permanence de jour et renforce ainsi le dispositif de sauvetage de la région. En hockey sur glace, Lausanne est allée remporter le derby lémanique hier soir à Genève, mais les Vaudois ont sué. Et en cyclocross, l'Omnium Romand peut compter sur le soutien des clubs de vélo de l'Est vaudois.
Pour le temps, cet après-midi, il sera globalement ensoleillé après la dissipation des nappes de brouillard sur le plateau. Et pour ce week-end, changement radical de décor, la météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Le comité référendaire pour le non à la loi Covid le 28 novembre a déroulé ses arguments hier à Lausanne. Un mois avant la votation, ce groupement de diverses associations a lancé sa campagne. Il organisera notamment des manifestations à Fribourg et Lausanne. Il se réunira également lundi à 18h devant l'hôpital Rivière à Chablais pour un événement avec des prises de parole. Le but, dénoncer la politique sanitaire des autorités. Les référendaires ont en ligne de mire le certificat Covid, un outil de discrimination selon eux, car il prive nombre de personnes d'activités de loisirs ou de culture. Ils appuient ainsi leur conviction sur la Constitution. Les explications de Damien Fortet, il est le président du mouvement suisse pour la liberté citoyenne.
Il y a un problème de constitutionnalité, effectivement, avec ce certificat sanitaire. On rappelle que l'article 8 de la Constitution, par exemple, parle de l'égalité de chaque citoyen et citoyenne devant le droit, donc du principe de non-discrimination. Or, le certificat sanitaire est justement une grave discrimination à nos yeux. L'article 10 de la Constitution aussi, qui donc sanctuarise l'intégrité physique, chose qui n'est pas garantie actuellement avec cette vaccination forcée due au certificat sanitaire.
La situation actuelle, on est dans l'obligation vaccinale, de fait ?
Malheureusement, on y arrive. De nouveau, en opposition avec l'article 10 de la Constitution, par lequel il y a une dimension de consentement. Chaque personne devrait donner un consentement libre et éclairé avant une vaccination. Et actuellement, avec cette pression sociale et cette pression politique du certificat sanitaire, finalement, les libertés individuelles et ce droit au libre consentement est bafoué.
Rappelons que la loi Covid comprend également les aides financières d'urgence, la rétrocession des pouvoirs de décision au canton ou encore le traçage des cas, un sujet de Joël Espy.
Le canton de Vaud met des moyens pour atteindre les personnes qui ne seraient pas encore vaccinées.
C'est le cas à Aigle où pour la deuxième fois, un centre de vaccination mobile a pris ses quartiers à la gare dans d'anciens locaux des TPC. L'idée est notamment de toucher les zones périphériques en profitant de ce lieu de passage. Le centre est ainsi ouvert de midi à 20h pour permettre aux employés de la société de transport ainsi qu'aux pendulaires et aux montagnards de recevoir leur dose. C'est le cas d'Aya, une jeune hormonanche qui, dès ses 16 ans, a voulu faire le pas. Malgré les doutes de ses parents, elle n'en pouvait plus des restrictions qui touchaient de nombreux lieux.
Par exemple, dans les restaurants, les bars, les discothèques, ou bien je suis inscrite à la salle de sport. Et aussi, c'était fermé du coup. Et puis, je ne me voyais pas d'aller me faire tester tous les deux jours pour pouvoir y aller. Donc ça, c'était un peu compliqué. Et puis, je skie beaucoup l'hiver. Enfin, je fais que ça et du coup, je ne savais pas encore si ça allait être obligatoire. Et de toute façon, je l'aurais fait. Donc.
On l'a dit, le centre de vaccination d'Aigle est ouvert de midi à 20h pour permettre aux pendulaires d'y avoir accès. Et c'est notamment la mise à disposition gratuitement d'un local sur la place de la gare qui a convaincu le canton. Jean Raymond est chef opération vaccination mobile. Il explique qu'Aigle était donc un choix stratégique.
On a d'un côté l'administration cantonale vaudoise, mais également d'autres acteurs comme les sociétés de transport public. Et puis bien évidemment, à Aigle, on se trouve à la gare d'Aigle, siège même de l'entreprise de transport public du Chablais. C'est ainsi aussi qu'on s'est arrêté ici. Et puis l'idée, c'est deuxièmement de également proposer la vaccination à tous, bien évidemment. Le site d'Aigle jouit d'une une connexion avec différents réseaux de transport public, notamment les CFF, ou bien justement les transports publics du Chablais par exemple, mais aussi permet à une agglomération comme la ville d'Aigle de pouvoir bénéficier de la vaccination. C'est pour ça qu'on est venu ici pour ces raisons-là.
Après une semaine de vacances plutôt calme, la vaccination mobile se déploiera dès lundi à nouveau avec 5 équipes. Celles-ci se rendront à Orbe et Aubonne ainsi que dans les écoles professionnelles et les gymnases comme à Aigle et Burier. C'était un sujet de Joël Espy.
La ville de Vevey va réitérer son projet parrainage après une première expérience positive en 2020.
Le concept consiste à créer des tandems entre personnes retraitées et migrants. Cela pour accompagner les derniers cités dans diverses démarches, recherche d'emploi, aide administrative ou encore pratique du français. Une soirée d'information se tiendra le 11 novembre prochain à la maison de quartier Villa Métis à Vevey. Aucune inscription préalable n'est demandée. Selon les besoins des personnes migrantes et les compétences des bénévoles, des tandems seront déjà formés lors de cette première rencontre.
Le tramway lausannois franchit une nouvelle étape.
Alors que le chantier du tracé entre Lausanne et Renan vient officiellement de démarrer, le prolongement jusqu'à Villars-Sainte-Croix dans l'ouest lausannois est désormais mis à l'enquête publique. Elle aura lieu dans chaque commune concernée du 1er au 30 novembre, annoncent aujourd'hui les partenaires. Des séances d'information à la population sont prévues à Crissier, Villars-Sainte-Croix et Bussigny. Et il est possible de visiter la salle virtuelle d'exposition sur le site tramway-lausannois.ch.
Vous l'avez peut-être déjà aperçu en jaune dans le ciel chablaisien.
Un hélicoptère qui a rejoint l'escadre Colombey-Roude d'Air Glacier. Uniforme Charlie vient renforcer le dispositif de sauvetage de la compagnie pour les régions du Bas-Valais, du Canton de Vaud et de l'Oberland bernois. L'appareil biturbine est en fonction depuis le 12 octobre dernier et a été présenté hier à la presse avec un exercice de treuillage. Valérie Blum s'y trouvait.
Qui est utilisé principalement ou généralement que pour les alarmes.
C'est-à-dire qu'il part avec son équipage, il va s'aligner en fonction du vent, de la météo, des obstacles, il va s'aligner sur la place là où il doit descendre l'équipage avec le brancard. Et voilà, vous voyez, le blessé est par terre ici.
Bon, je m'appelle Christian Rosa, je suis depuis 27 ans à Air Glacier. Je suis responsable et chef de place de l'héliport de Colombey.
C'est un hélicoptère qui est assez impressionnant. Vous avez expliqué que c'est un bimoteur. En quoi est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour le sauvetage?
En fait, avec un deuxième moteur, on gagne en sécurité. C'est-à-dire que pour les vols de nuit, pour les vols sur des territoires qui sont hostiles, comme on l'appelle nous, c'est-à-dire au milieu de la forêt, au milieu de l'eau, on pourrait très bien faire des secours sur l'eau. Cet hélicoptère permet d'avoir une sécurité supplémentaire en cas de panne d'un des moteurs.
Alors maintenant, ils sont en train de préparer le patient, c'est-à-dire ils le mettent dans le brancard. Ça a des brancards spéciaux, c'est vraiment fait pour l'hélicoptère. Ils ont des centres d'attache pour qu'on puisse les relier tout au treuil. Il sera médicalisé en fonction de ce qu'il a. Généralement, c'est des antidouleurs, ça peut être, s'il est sous perfusion, ils lui mettront une perte s'il a perdu du sang. Et ensuite, une fois que ça sera fait, l'hélicoptère et l'équipage vont rappeler l'hélicoptère et ils vont venir le rechercher.
Et c'est quelque chose qui arrive couramment pour les sauvetages d'air glacier?
Alors les treuillages, on arrive à un bon tiers jusqu'à 40-45% de treuillage en fonction des saisons. Il est un peu plus l'été parce que c'est des chemins de montagne, les gens sont beaucoup en train de gambader sur les chemins pédestres. Et l'hiver, c'est principalement du secours sur les pistes ou du secours du hors-piste. Et là, il y a aussi un peu de treuillage, mais c'est surtout l'été.
Moi, c'est Grégoire Caron. Je travaille comme guide auxiliaire à la maison du sauvetage.
En tant que guide, vous interveniez pas dans un des hélicoptères qui était ici, qui n'était pas un bimoteur. S'il y avait besoin, vous veniez depuis Sion, c'est ça?
On pouvait faire des gardes sanitaires, oui, sur des monoturbines, sur des événements qui étaient planifiés. Par contre, une permanence de sauvetage depuis Colombey, elle n'était pas organisée avec le guide. Ça veut dire que s'il y avait déjà des guides, il fallait, par un système de SMS prioritaire, en trouver un pour aller faire la mission. Et puis maintenant, il y aura, sur la haute saison, un guide qui sera en permanence à la base sur Colombey.
Pierre Métraillé, je suis médecin d'urgence et responsable du sauvetage chez Air Glacier.
Et vous, en tant que médecin, c'est important d'avoir justement ce type d'appareil qui est équipé vraiment pour le sauvetage, pour intervenir un peu partout, entre guillemets.
Alors oui, les médecins chez Air Glacier sont capables de faire du sauvetage en monomoteur. Avec cet appareil-là, la technique évolue un petit peu. On a la possibilité de faire plus de traitements en cabine. On a plus de place pour soigner le patient. On est plus à l'aise s'il se passe quelque chose durant le vol. Et puis l'appareil permet de transporter des patients d'un hôpital à l'autre, de faire ce qu'on appelle les transferts interhospitaliers, justement parce que la cabine permet cette place pour les traitements du patient.
Mais si le nouvel hélicoptère d'Air Glacier est encore habillé de jaune, il arborera l'an prochain les couleurs et les étoiles du drapeau valaisan. Découvrez encore sur notre site internet la vidéo de l'exercice de treuillage à effectuer sur la base de Colombey.
La Jeune Chambre internationale du Chablais soutient l'enfant et l'hôpital à hauteur de 6 200 francs.
Ce chèque a été remis le 26 octobre dernier à l'association qui encadre les enfants hospitalisés à l'hôpital Riviera de Chablais de Réna. Ce montant est le bénéfice réalisé par la JRI le 28 août dernier lors de l'organisation de la première édition de la rétromobile du Chablais. Le public avait ainsi pu découvrir au centre-ville de Monthey de nombreux modèles de voitures d'époque. Le nouveau président de l'UDC, Valère Roman, assume ses prises de position proches de la mouvance complotiste. C'est ce qu'a déclaré le principal intéressé, Donald Moss, dans une interview accordée aujourd'hui aux Nouvellistes. Il estime notamment que l'élection américaine était truquée, que Donald Trump est le véritable président des États-Unis et qu'une convergence malsaine d'intérêts particuliers dirige la société. Pour lui, le Covid-19 est d'origine humaine et une arme biologique qui a nécessité le dépôt officiel de 73 brevets. Dans un encadré, le Nouvelliste indique se distancier des plusieurs éléments mentionnés par Donald Moss. Ancienne présidente du Conseil national Maya Graff, Isabelle Moret et Marina Carobbio ont ouvert ce matin au Palais fédéral la deuxième session des femmes. La première avait eu lieu il y a 30 ans, en 1991. 246 femmes débattent d'égalité sous toutes ses formes jusqu'à demain. Elles adopteront des pétitions qui seront transmises au Conseil fédéral et au Parlement. La session des femmes s'est ouverte dans la bonne humeur, comme l'explique sur place notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
Beaucoup de couleurs, d'applaudissements, de musique, d'enthousiasme et de bonne humeur ce matin dans la salle du Conseil national où siègent 246 femmes. 246, comme le nombre de parlementaires du Conseil national et du Conseil des États. Ce sont 46 femmes officiellement élues au Parlement et 200 autres femmes élues par leur père ce printemps, venant de toute la Suisse, de tous âges, des jeunes, des moins jeunes, des citoyennes et de simples résidentes. Elles ont préparé cette session dans 8 commissions thématiques. La diversité de l'Assemblée est autrement plus conséquente qu'avec le Parlement ordinaire. Écoutez, prise au hasard, l'une des femmes siégeant à cette session, la fiscaliste lausannoise de 30 ans, Anouk Soji.
J'étais toute jeune quand il y a eu la première session. C'est une occasion incroyable de siéger au Palais fédéral avec des femmes de tout horizon. J'ai eu l'occasion de participer à la commission sur la santé sexuelle et la médecine du genre, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui encore, il y a des différences sur le traitement des patientes et sur la manière de savoir comment fonctionne le corps humain et le corps des femmes notamment. Donc je me réjouis du sujet qui va passer ce matin et je me réjouis surtout d'apprendre beaucoup de choses dans des domaines que je connais moins bien. Je pense qu'il y aura toujours des choses à améliorer et on verra surtout le bilan après ces deux jours ici à Berne.
Les revendications égalitaires des femmes touchent à tous les domaines de la société. Celles des femmes de la campagne sont portées par la Neuchâteloise Anne Chalande, présidente des paysannes et des femmes rurales.
Une première demande porte sur le droit matrimonial pour obtenir une atténuation des effets négatifs du divorce pour les paysannes spécialement. Ça peut conduire à des situations très difficiles, un divorce dans l'agriculture. Le deuxième texte demande au Conseil fédéral d'améliorer en particulier la couverture sociale des paysannes. Et puis il y a une interpellation. En Suisse, il y a encore très peu d'exploitations agricoles qui sont gérées par des femmes, puisque la tradition, jusqu'à présent en tout cas, voulait qu'on transmette essentiellement aux fils. La proportion est actuellement légèrement inférieure à 7% de femmes chefs d'exploitation. Donc l'idée est de demander au Conseil fédéral d'analyser pourquoi et de réfléchir à des mesures pour encourager cette évolution.
Un sujet de notre correspondant à Berne, Serge Jubin. La session des femmes siège encore cet après-midi et demain matin.
L'avenir suisse veut plus de flexibilité sur le marché du travail.
Ceci pour soutenir les jeunes adultes, les indépendants et les salariés à bas revenus durement touchés par la crise du coronavirus. Cependant, la pandémie n'a pas affecté de manière brutale le marché du travail en 2020. Le taux d'activité n'a baissé qu'à court terme pendant le premier confinement et l'augmentation du taux de chômage a été limitée à 0,8 point de pourcentage, indique l'organisation. Toutefois, le nombre effectif d'heures travaillées a reculé de près de 4%, soit nettement plus que lors des crises précédentes. La conférence des gouvernements de Suisse occidentale soutient la loi Covid-19 et appelle la population à faire de même en vue de la votation du 28 novembre prochain. Elle indique dans un communiqué qu'un refus implique la suppression du certificat sanitaire et que cela pourrait avoir des conséquences négatives sur les déplacements et les échanges transfrontaliers.
Un Suisse a été nommé à la tête de l'opération de maintien de la paix de l'ONU.
Il s'agit de Patrick Gaucha, qui a été nommé aujourd'hui par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le Fribourgeois sera chargé de la surveillance de la trêve au Proche-Orient.
Une fillette de 4 ans a accidentellement tiré sur son petit frère de 18 mois près de Dijon, en France.
L'accident est survenu alors qu'elle jouait avec une arme chargée de petit calibre. Le bébé n'a pas été blessé grièvement, mais une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer si l'accident est dû à une imprudence des parents ou si l'arme était détenue légalement. La production industrielle japonaise baisse fortement de 5,4% exactement. C'est notamment le secteur automobile qui est en difficulté, touché de plein fouet par les perturbations de son approvisionnement. Il s'agit du troisième mois de déclin d'affilée de la production industrielle de la troisième économie mondiale. Le pape François a appelé les dirigeants mondiaux qui se réuniront pour la COP26 à apporter urgemment des réponses efficaces à la crise écologique. Cela pour offrir un espoir concret aux générations futures. On le rappelle, la COP26 se tiendra à Glasgow, en Écosse, dès lundi prochain, et ce, durant 5 jours. Hockey sur glace, le deuxième derby lémanique de la saison de National League a une nouvelle fois souri à Lausanne. En déplacement dans l'antre de Genève-Servette hier soir, les Vaudois se sont imposés 3-2, mais ils se sont grandement compliqué la tâche. Alors qu'ils menaient de 2 longueurs à la fin de la deuxième période, les joueurs du LHC ont dû attendre les 2 dernières minutes pour faire la différence en infériorité numérique. Ce succès a donc été acquis dans la douleur pour les Lausannois, mais il fait tout de même le bonheur de l'attaquant Guillaume Maillard, auteur de l'ouverture du score.
Ouais, bah on attendait ce moment depuis le début de la saison. On a 3 victoires en 4 matchs et on a fait aussi un point contre Zug, mais bon, on savait qu'on allait avoir un moment où on allait gagner des matchs et ce moment est arrivé. On espère que ça va continuer comme ça.
Des propos recueillis par nos confrères de Radio Lac. Pour son prochain match de championnat et pour tenter de décrocher une 4e victoire en 5 matchs, Lausanne accueillera Rapperswil demain soir à Malais.
Et du hockey sur glace, on passe au cyclocross. L'Est vaudois accueillera les 2 premières étapes de l'Omnium Romand.
Pour relancer son édition 2021, l'épreuve fera d'abord halte demain à Chailly, au-dessus de Montreux. Puis le dimanche suivant, les participants se retrouveront à Réna. Organisé par le Vélo Club Vevey et le Montreux Réna Cyclisme, ces 2 manches sont des rendez-vous bien implantés au sein de l'Omnium Romand. Le Chablais, notamment, est une région qui a souvent fait office de terrain de jeu pour des courses de cyclocross. Écoutez les précisions de Laurent Dufaux, président du Montreux Réna Cyclisme.
La région chablaisienne est un petit peu à une histoire avec le cyclocross. Aigle est quand même un petit peu à une vitrine au niveau international. Plusieurs Coupes du Monde, plusieurs championnats suisses. On a organisé pendant 4 ans le Cazette Cross Tour, qui était aussi une manifestation très, très intéressante. Et c'est vrai que l'idée, c'était de revenir pour, en tout cas, ce qui concerne le Montreux Réna Cycliste, c'était de revenir avec une manifestation au cœur du village de Réna, avec un cyclocross dans un premier temps régional. Donc pour nous, ça serait quand même important de faire un bon test pour peut-être accueillir les années à venir un cyclocross plus important, peut-être un cyclocross international, et puis d'essayer de réunir tout type de personnes pour créer un petit peu une fête autour du vélo.
Et si le Montreux Réna Cyclisme voit plus grand pour ces prochaines années, la situation est différente au Vélo Club Vevey. Les organisateurs de la première manche de l'Omnium Romand à Chailly souhaitent ainsi conserver l'aspect populaire de leur épreuve, ce qui laisse une plus grande liberté d'action, notamment dans la confection du parcours. Les explications de Julien Chevalet, responsable du cyclocross de la Riviera.
Oui, c'est un plaisir. Et puis, on a pour le montage des gens qui veulent nous aider. Je pense aux spécialistes, Loïs Dufault, chez nous, Maxime Benet, qui a fait des bons résultats durant pas mal d'années. Donc, on leur dit, vous avez ce champ-là, et puis éclatez-vous. Alors, une année, ils nous font un escargot impossible à sortir. Des autres années, ils nous feront des épingles ou je ne sais quoi. Et on essaie, une année, peut-être d'ajouter un petit saut, des choses comme ça. Il faut être honnête, cette année, on se contient encore un tout petit peu. On a vraiment envie, notamment aussi pour l'année prochaine, d'amener des éléments encore plus fun, vraiment ludiques, pour que les participants aient du plaisir, mais surtout aussi les spectateurs. C'est vraiment un chouette moment que de venir voir tourner les gens sur ce parcours, parce qu'il y a tout le temps du monde, et pas sur une course sur route où on va passer le peloton en 30 secondes, après tout est terminé. Là, vraiment, la course de 45 minutes, durant 45 minutes, il y a du spectacle.
Des propos recueillis par Julien Traxel. La première étape de l'Omnium Romand de cyclocross est donc prévue demain à Chailly, au-dessus de Montreux. Puis la seconde manche se tiendra 8 jours plus tard, le dimanche 7 novembre, Arena.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Decathlon, le numéro 1 de la location et équipement de ski à Comté, Colombey et Villeneuve, et sur decathlon.ch.
Encore quelques nappes de brouillard possibles sur le plateau avec un sommet situé entre 600 et 700 mètres d'altitude. Ces nappes vont se dissiper normalement en bonne partie en cours de journée malgré des poches possibles de résistance. À part cela, le temps sera bien ensoleillé cet après-midi malgré quelques bancs de nuages de moyenne et haute altitude, parfois denses. En fin de journée, aujourd'hui, il va faire jusqu'à 13 degrés en pleine, 12 à 1000 mètres. Et pour ce week-end, changement radical de décor. Demain samedi, le temps sera le plus souvent très nuageux avec l'arrivée de précipitations par l'ouest ainsi que le long de la crête des Alpes valaisannes avant la mi-journée. Des précipitations qui deviendront plus éparses en soirée. En plaine, il faudra compter avec la présence du faune qui deviendra modéré à fort dans le Chablais. En montagne, le vent modéré à fort de sud à sud-est deviendra tempétueux en soirée sur les crêtes et les cols. Et puis pour dimanche, le temps sera nuageux avec cependant de belles éclaircies en milieu de journée et quelques précipitations résiduelles le matin. Puis à nouveau en soirée, le long des Alpes, souvent couvert avec quelques précipitations. La limite plus neige sera située vers 2800 mètres d'altitude et le fun lui sera soutenu dans le Chablais. Il va faiblir en fin de journée. Pour les températures ce week-end, de 9 à 14 en pleine, de 6 à 12 à 1000 mètres et de 4 à 7 à 2000 mètres.